En 1989, Jacques Baudouin recevait Thierry Deduve. Thierry Deduve est professeur d'esthétique et d'histoire de l'art moderne à l'Université d'Ottawa. Il est aussi directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris. En 1989, il venait de publier « Au nom de l'art » chez Minuit et « Résonance du ready-made ». Une épine dorsale à ce travail est la question d'être artiste, mais sans aucune pratique artistique. Ou bien, comment l'art en général est devenu depuis Marcel Duchamp une possibilité d'être ou bien une posture à faire à suivre avec Thierry Deduve.
La première chose dont je voudrais qu'on s'étonne, c'est qu'il existe quelque chose comme l'artiste en général. Aujourd'hui, on rencontre fréquemment des gens qui se disent artistes sans spécifier de quel art il s'agit. Pendant des millénaires, que je sache aussi longtemps que l'humanité a existé, l'art a toujours été lié à un savoir-faire spécifique, que ce soit de la sculpture, de la peinture, de l'architecture, de la littérature, la musique. Bref, on ne pouvait pas être artiste sans pratiquer un art en particulier, c'est-à-dire sans pratiquer un métier dont la définition, la plupart du temps, a été finalement le savoir-faire artisanal. Bien que, bien entendu, toutes les cultures ont distingué le simple artisan de l'artiste de génie, il n'empêche que artisans et artistes étaient en continuité sur une même échelle. Aujourd'hui, non seulement la rupture est accomplie entre l'art et l'artisanat, mais il semble qu'il y ait moyen d'être artiste en général, sans pratiquer un art en particulier. Bien entendu, et les mouvements récents le montrent aussi, cette tendance à pratiquer l'art en général s'est accompagnée d'une tendance inverse, à respécifier des arts, mais comme sur une table rase, c'est-à-dire non pas en continuité avec les anciens métiers et les anciens artisanats, mais des choses nouvelles qui sont de l'art assorti d'une épithète. Par exemple, il y a eu l'art cinétique, l'art hop, l'art pop, l'art minimal, l'art conceptuel, l'art pauvre, bref, l'art ceci, l'art cela. Quant à Duchamp, vous avez parfaitement raison, il est celui par qui le scandale est arrivé. Il est celui qui a, d'une part, apparemment à notre échelle historique, révélé qu'une telle chose comme l'art en général est en effet possible, au point même de sembler avoir autorisé n'importe quoi comme art, ou le n'importe quoi comme art, puisque Duchamp, comme chacun sait aujourd'hui, est l'auteur du ready-made, c'est-à-dire d'un objet tout fait, choisi et nommé objet d'art, pas nécessairement par l'artiste, mais en tout cas par une combinaison, disons, de l'artiste et de sa postérité. Toujours est-il que ces objets, quasi non modifiés par l'artiste, signés et nommés, certes, que sont la pelle à neige, l'urinoir, la roue de bicyclette, le peigne, le porte-manteau, le porte-chapeau et quelques autres, sont aujourd'hui au musée et conservés comme de l'art, alors que rien ne permet de dire que ce sont des tableaux, bien entendu, et pas même des sculptures. Car en effet, une pissotière ne peut pas être une sculpture, à moins qu'on ait déjà décidé de la nommer art, ou du moins qu'on la nomme art par le même geste par lequel on la nomme sculpture. Je crois que Duchamp, si cette révélation s'est faite par lui, c'est aussi parce que la peinture jouissait d'une sorte de privilège dans ce rapport entre le spécifique, c'est-à-dire les différents métiers nommés d'un nom individuel, peinture, musique, architecture, littérature, par exemple, et ce que j'appelle le générique, c'est-à-dire l'art en général. Et la peinture, encore une fois, ce sont des raisons historiques trop complexes, mais ce que je constate aussi, c'est que depuis à peu près 50 ans, mais certainement les 30 dernières années, ça a été très flagrant. À peu près tous les 5 ans, on nous annonce la mort de la peinture, et donc je reviens au thème de la mort de la peinture, et à peu près tous les 5 ans, on nous annonce qu'elle ressuscite. Si vous prenez les derniers avatars de ce balancement d'aller-retour entre peinture et art en général, vous aviez, à la fin des années 60, l'avènement de l'art conceptuel qui, une fois de plus, car il n'était pas le premier mouvement à vouloir le faire, a prétendu assassiner la peinture et en finir avec la peinture. Ça n'a pas été le cas, puisque 10 ans après, on a vu revenir la peinture en force, et non seulement la peinture, mais même la peinture figurative, qu'on croyait avoir été abolie par une certaine logique avant-gardiste de l'abstraction, et On voit revenir donc le néo-expressionnisme allemand, la trans-avant-garde italienne, etc. 10 ans plus tard, c'est-à-dire vers la fin des années 80 cette fois, le balancier semble être retourné de l'autre côté et ce qui occupe le haut du pavé est un art dit de l'appropriation, basé très explicitement sur le ready-made. Puisque des artistes comme Haim Steinbach, par exemple, Lavier en France, Jeff Koons et d'autres s'approprient carrément des objets tout faits, les mettent en scène d'une certaine manière et réclament pour ces objets un statut artistique qui n'est pas un statut de sculpture ou de peinture. Mais c'est toujours entre peinture et art en général, semble-t-il, que le balancier a oscillé. Alors il m'est évidemment venu à l'idée, et ça renforçait la position de Duchamp là-dedans, que c'était... comment dirais-je, la tâche du balancier qu'il fallait examiner. Au lieu d'être fasciné par le balancier lui-même et d'avoir des torticolis à force de le voir osciller de gauche à droite, il valait mieux regarder le point d'attache du balancier. Et ce point d'attache, c'est précisément la question théorique des rapports entre le spécifique et le générique. Et le rôle de Duchamp est évidemment crucial. D'où mon idée de chercher... le chaînon manquant entre la peinture et le ready-made.
Vous venez de parler d'un chaînon manquant. Alors, de quoi s'agit-il ? Quel est ce chaînon manquant ?
Mais avec un grain de sel tout duchampien, il fallait d'abord retourner au texte, puisque c'était Duchamp apparemment le responsable, et Duchamp, avec une complaisance extraordinaire, vers la fin de sa vie, nous a fourni un certain nombre d'explications qui sont humoristiques, mais qui, à mon avis, doivent être lues à la lettre. Et en voici une, par exemple. On lui demande d'expliquer le ready-made, et il répond à celui qui l'interviewe. Un ready-made est une œuvre d'art sans artiste pour la faire, si je peux simplifier la définition. Un tube de couleur qu'un artiste utilise n'est pas fait par l'artiste. Il est fait par le fabricant qui produit les couleurs. Ainsi, le peintre fait réellement un ready-made lorsqu'il peint au moyen d'un objet manufacturé qui s'appelle couleur. Voilà l'explication. Je trouve cette explication très drôle, et extraordinairement juste. Elle est corroborée par 4 ou 5 autres interviews qui disent la même chose. Mais donc, Duchamp nous donne lui-même le chaînon manquant entre le ready-made et la peinture, ou entre la peinture et le ready-made, en disant, si l'artiste utilise un tube de couleur pour démarrer son tableau, il utilise un ready-made, et donc tout ce qu'il fait, c'est un ready-made assisté, pour prendre une de ses catégories à lui. Je ne prends pas cette conclusion, bien entendu, à la lettre, mais j'ai interprété cette phrase et d'autres pour essayer de comprendre que les ready-made, et en particulier l'un d'entre eux, qui est le peigne, et dont le titre évidemment peut se lire au subjonctif du verbe peindre, que je peigne. Donc j'ai tenté de lire ces ready-made comme des allégories, Duchamp lui-même employait l'expression « apparence allégorique », d'un tube de couleur ready-made, que Duchamp n'a jamais fait, n'a jamais choisi bien sûr, mais qui est en quelque sorte le signifiant sous-jacent de tous ces ready-made et qui permet rétrospectivement de relier le ready-made à l'histoire de la peinture.
Oui, c'est alors qu'il faudrait peut-être replacer l'invention du ready-made dans le contexte de la peinture de l'époque, qui est aussi celui de la naissance de l'abstraction et de la redécouverte de la couleur pure.
Exactement. La couleur pure, vous savez, c'est une histoire énorme. Dans la genèse de l'abstraction, puisque le fantasme et l'idée de la couleur pure naît au fond avec la Farbenlehre de Goethe à peu près 100 ans avant la naissance de l'abstraction, mais l'idée de la peinture pure, c'est-à-dire de la peinture qui soit débarrassée de toute fonction représentative, de tout ce qui n'est pas propre à la peinture, c'est-à-dire spécifique à la peinture, l'idée donc de réduire la peinture à son essence a germé dans l'esprit des premiers peintres abstraits, tous, Delaunay, Kupka, Mondrian, Malevitch, Kandinsky, par exemple. Et chez à peu près tous, la notion de peinture pure s'est vue réduite par métonymie, pour ainsi dire, à celle de couleur pure. Eh bien, la définition d'un Kandinsky de la couleur pure, c'est une définition qu'il va chercher, mettons, dans le symbolisme de Goethe. Celle de Delaunay, c'est une définition qu'il va chercher dans la théorie des couleurs de Chevreul, que Seurat avait déjà utilisé, et celle de Duchamp, ironique bien sûr, c'est simplement de dire, c'est celle qui sort du tube. Au fond, j'ai cherché deux chaînons manquants, ou plutôt j'ai trouvé deux chaînons manquants que l'histoire m'a amené, pour ainsi dire, sur un plateau d'argent. Le premier, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, mentionné par le contexte, c'était celui de la naissance de l'abstraction, et donc la première occurrence d'un passage du spécifique, à savoir de la peinture, au générique, à savoir au ready-made, c'est, disons, le peigne de Duchamp, mais tous ces ready-made en général, allégorie d'un tube de peinture que Duchamp n'a pas fait. Le tube de peinture permet, au fond, de relier l'apparition dans l'histoire de l'art du ready-made à ses soubassements antérieurs dans l'histoire qui a amené les peintres à se préoccuper de couleurs pures, c'est-à-dire une histoire qui va, grosso modo, de l'impressionnisme à Delaunay, avec comme point d'orgue Seurat, bien entendu. Et la doctrine du divisionnisme, dont vous savez qu'elle disait ne pas mélanger les couleurs, ni sur la palette, ni sur la toile, mais les laisser se mélanger dans l'œil du spectateur, et donc les apposer pures sur la toile. L'histoire de la peinture et de l'alternance du balancier entre peinture d'une part et art en général de l'autre a ramené la question du passage du spécifique au générique d'une autre manière dans les années 60. Cette fois, nous nous situerions non plus à l'origine de la peinture abstraite, mais plutôt à sa fin. Si fin il y a. Il faut dire que, ça s'est répété plusieurs fois, mais mentionnons un cas. En 1959, quand Frank Stella, à New York, montre ses toiles noires, toute une génération de peintres a subitement le sentiment que la peinture est finie, que c'est le dernier tableau. Ce thème du dernier tableau est le pendant du thème de la table rase ou du premier tableau, de la toile vierge en définitive, qui est un autre fantasme au début de la peinture abstraite. Mais il se représente sous la forme précisément de la toile vierge dans une situation de crise qui est celle des années 60 à New York, de la naissance de l'art minimal, lequel naît du fait d'une génération de jeunes peintres qui éprouvent le besoin de passer à la troisième dimension parce que en deux dimensions, il n'y a plus moyen de rien faire.
Ce qui était tout à fait contradictoire avec les impératifs ou les critères distinctifs du modernisme en peinture.
Le modernisme, il y en a plusieurs des modernismes. Ce qui est déterminant pour comprendre l'épisode dont je parle ici, c'est-à-dire celui des années 60, c'est le modernisme de Greenberg. Or, le modernisme de Greenberg a ceci de particulier qu'il est une vision défensive de l'histoire. À savoir, la peinture résiste à sa mise à mort, et elle résiste en se retranchant de plus en plus dans ce qui lui est précisément spécifique, propre. Et donc, Greenberg voit, rétrospectivement, l'histoire de la peinture comme étant l'entreprise par laquelle les peintres se sont, une à une, débarrassés de toutes les conventions superflues de la peinture, d'abord la perspective, puis le clair-obscur, puis l'espace euclidien avec le cubisme, puis finalement la figuration elle-même avec l'abstraction, et enfin le rapport figure-fond avec le monochrome, et finalement, il reste plus qu'une chose dont on pourrait se débarrasser, c'est la couleur elle-même, et la couleur pure refait son apparition, non plus comme origine, mais comme fin de la peinture. Quand on enlève la couleur, qu'est-ce qui reste? Il reste la toile vierge. Et Greenberg, en 1962, au vu de cette histoire qui va, disons, de Kandinsky à Stella ou à Kelly, par exemple, reconnaît, et je le cite, qu'une toile tendue sur châssis est déjà un tableau, même si ce n'est pas nécessairement un tableau réussi. Il restait, et c'est ce que j'ai tenté de faire, à interpréter cette phrase dans ce contexte et à refaire le lien avec Duchamp. Bien entendu, la toile vierge est un ready-made. Mais il a ceci de particulier, comme le tube de peinture, comme le tube de couleur, c'est un ready-made spécifique, car il appartient déjà à l'histoire de la peinture avant même que le peintre n'y touche.
Donc pour vous, à ce moment, le ready-made, sous sa forme spécifique, refait surface dans l'histoire de la peinture. Il va encore refaire surface avec un autre artiste, avec le courant conceptuel, avec Kossuth. Kossuth va se revendiquer de Duchamp et de ses ready-made.
Absolument. Il y a, à la fin des années 60, à New York, une opposition qui est complexe, mais que je ramène à celle-ci. Greenberg-Kossuth. C'est-à-dire une vision esthétique du goût, c'est-à-dire de l'appréciation par le plaisir des conventions, et en particulier des conventions supprimées de la peinture, un goût qui évolue sous la pression des menaces qu'il y a, qui s'exercent socialement contre la peinture, et qui amène donc à se rendre sensible à des micro-événements comme ceux que vous pouvez voir se dérouler sur un tableau monochrome, par exemple. Ça, c'est la position de Greenberg. Et il est évidemment acculé à dire « le modernisme est terminé » si on en arrive à la toile vierge. Le modernisme et la peinture sont terminés d'un seul coup. D'où, évidemment, la résistance de Greenberg. La jeune génération, qui est à la fois nourrie des idées de Greenberg et qui est à la fois en but à l'obstacle d'étoiles noires et d'étoiles argentées de Stella, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Elle commence par décider de passer outre à la planéité du tableau et ajoute au tableau un élément tridimensionnel, et c'est la naissance du minimal art, de l'art minimal. Et un petit peu plus loin, très fort dans la même logique, ce sera la naissance de l'art conceptuel, et c'est là que Kossuth intervient dans un texte fameux publié en 1969, Art After Philosophy, où il dit que, et alors je vais le citer, tenez, regardez. Être un artiste aujourd'hui signifiait questionner la nature de l'art. Si on questionne la nature de la peinture, on ne peut pas questionner la nature de l'art. C'est ainsi parce que le mot art est général et le mot peinture spécifique. La peinture est une sorte d'art. Et donc, si on est peintre, pour Kossuth, carrément, on n'est pas artiste. Pour être artiste, il faut être artiste en général. Et ça, c'est la naissance de l'art conceptuel qu'on ferait peut-être mieux d'appeler art générique.
Pour Kossuth, l'art est une tautologie, au fond.
Pour Kossuth, l'art est un concept. Il est un concept qui se définit lui-même. Il est donc une tautologie. Et surtout, son concept d'art repose sur la dichotomie absolue entre art et esthétique. Il y a pour Kossuth une séparation absolue entre l'art et l'esthétique, puisque l'art est du domaine d'un concept analytique que des procédures inspirées de Wittgenstein, d'ailleurs en l'occurrence, permettent d'analyser. Et l'esthétique est simplement reléguée dans le domaine du goût. Et le mot goût a très mauvaise presse dans les années 60, à tel point que le mot goût signifie au fond la décoration. Et Greenberg est rejeté par Kossuth et par ses copains à l'époque parce qu'il est le critique de la décoration.
Mais en même temps, dans votre livre, Thierry Dedieu, vous observez que par-delà leur opposition, Greenberg et Kossuth se rejoignent sur un point, et qui est l'appréciation de la portée des ready-made. C'est que vous écrivez, si je me souviens bien, que Greenberg et Kossuth, tout à la fois, considèrent effectivement que les ready-made sont un coup stratégique, mais ils refusent aux ready-made tout statut, toute dimension esthétique. Alors comment expliquer ce paradoxe ?
Mais ce n'est pas un paradoxe. Pour Greenberg, le ready-made est une mauvaise blague d'étudiant. Un coup stratégique par lequel Duchamp aurait réussi à faire accepter socialement, grâce au contexte, qu'une pissotière puisse être de l'art, simplement parce qu'elle est dans un musée, et pour des raisons X ou Y, il aurait réussi son coup. Mais pour Greenberg, c'est une catastrophique chute de goût que cela représente. Si les gens sont capables d'avaler des couleuvres et de croire qu'une pissotière est de l'art, alors que cette pissotière ne peut pas éveiller chez eux un sentiment esthétique, puisque elle ne relève d'aucune des conventions d'un métier spécifique, alors c'est la décadence. Et c'est cette décadence qu'au contraire, Kossuth revendique, mais comme étant un progrès. 20 ans après, on voit que l'histoire se répète, et sur le plan de l'analyse, de l'interprétation de ces faits, on n'a pas énormément avancé. Il m'a donc semblé qu'il fallait là aussi porter son attention sur le chaînon manquant, ça c'était la partie historique, et la partie théorique, qui est peut-être un aspect même plus important du travail que j'essaye de faire, c'est de réinterpréter le coût du ready-made comme esthétique et non pas comme conceptuel. Greenberg a une conception du jugement esthétique qui est la conception du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, le jugement esthétique, c'est le jugement de goût. Kant définissait le jugement de goût par le sentiment de plaisir ou de peine. Un jugement est un jugement de goût s'il résulte du sentiment soit de plaisir, et c'est un jugement positif, on dira alors ceci est beau, soit un jugement de déplaisir, et c'est un jugement négatif, et on dira alors ceci est laid. Kossuth, qui s'oppose à Greenberg diamétralement à la fin des années 60, trouve que le jugement de goût est relégué dans le domaine, ou plutôt trouve que l'esthétique c'est effectivement le domaine du goût, mais que le goût devient à ce point péjoratif que ça ne concerne plus que la décoration et non pas l'art. et il reproche aux artistes qui sont les poulains de Greenberg d'être simplement des peintres décoratifs qui ne méritent pas le titre conceptuel d'artiste. Donc nous avons, si vous voulez, une antinomie qui rappelle, mot pour mot, à une différence près, l'antinomie kantienne, l'antinomie du goût, telle qu'elle est exposée dans la troisième critique de Kant, dans la critique du jugement. Et une grande partie de mon travail sur le plan théorique a été de réinterpréter la critique du jugement. L'antinomie en question est la suivante. Je peux l'expliquer parce qu'elle est très simple et en même temps tout à fait géniale. Je crois que Kant avait vu, mieux que quiconque, la nature du jugement esthétique et qu'il l'a vu une fois pour toutes, à un amendement près que je vous dirai dans 5 minutes. Kant remarque que quand on exprime un jugement de goût, on dit « ceci est beau ». On ne dit pas « ceci me plaît », alors que « ceci me plaît » serait la traduction effective du sentiment subjectif que vous ressentez devant quelque chose qui vous fait plaisir. Non, on prétend que la beauté est un attribut objectif de la chose que l'on juge. Et donc, en prétendant que la beauté est objective, on prétend du même coup que tout le monde devrait être d'accord avec son propre jugement de goût, qui n'est pourtant que l'expression d'un sentiment subjectif. Si je constate que la porte est bleue, elle doit être bleue pour tout le monde, sauf pour les daltoniens. Si je dis la porte est belle, je prétends qu'elle doit être belle pour tout le monde, alors que dans la réalité, mon voisin peut très bien trouver la porte laide. Kant a planché sur ce paradoxe, qui est une antinomie, et qui revient en gros à dire ceci. D'un côté, et c'est la thèse, la beauté n'est pas un concept, car sinon, on pourrait tous se mettre d'accord. D'un autre côté, la beauté doit être un concept, car sinon, on ne réclamerait même pas l'accord d'autrui, et le jugement de goût ne serait que, comme dit Kant, un jugement sur l'agréable, qui est, lui, exprimé par la phrase « ceci me plaît » ou « ceci ne me plaît pas ». Dans le chapitre d'un des deux livres que je viens de publier, qui s'intitule « Kant d'après Duchamp », le titre l'indique très bien l'opération que j'ai faite, j'ai simplement présumé que la phrase « ceci est de l'art » avait pris la place de la phrase « ceci est de beau » et « ceci est beau », mais, contrairement à ce que prétend Kossuth, n'en exprime pas moins un jugement esthétique. Et contrairement à ce que prétend Greenberg, ce jugement qui est esthétique ne serait pourtant pas un jugement de goût. C'est très mystérieux à comprendre qu'un jugement esthétique ne soit plus un jugement de goût, mais quand on voit la fréquence avec laquelle les artistes modernes, depuis Courbet par exemple, ont fait appel au dégoût pour provoquer un sentiment chez le spectateur, sentiment qui a été avalisé par l'histoire de l'art, puisqu'une partie des chefs-d'œuvre de la modernité sont précisément des œuvres qui ont été jugées dégoûtantes, on a là un indice historique de ce que, effectivement, quelque chose a changé depuis l'époque de Kant, et que, effectivement, la phrase « ceci est de l'art » a bien, bel et bien remplacé la phrase « ceci est beau » comme expression canonique du jugement esthétique. Ça a été mon hypothèse. Relire Kant d'après Duchamp, c'était simplement relire toute la troisième critique en remplaçant le mot « beau » par le mot « art », sans pour autant supposer qu'il soit synonyme. Il s'agit d'un simple remplacement de termes.
Mais Thierry de Dive, cette phrase « ceci est de l'art » est un jugement esthétique, comment l'interprétez-vous ?
Si l'on part de la situation qui est commune aujourd'hui, 60 ans après Duchamp, il faut d'abord noter que tout et n'importe quoi peut être de l'art. C'est-à-dire que les conventions spécifiques des différents arts ont été dissoutes. On peut faire de la musique avec du bruit et on peut faire des arts plastiques avec littéralement n'importe quoi. Les exemples de Manzoni, de Brotars, des artistes conceptuels, des artistes de l'arte povera en Italie sont là pour le démontrer. Comment le spectateur d'une œuvre de ce genre exprime-t-il son adhésion à l'œuvre ? Tout d'abord, je présume que, comme par le passé, l'œuvre d'art suscite en lui un sentiment. Contrairement à ce qui était le cas pour Kant, je pense que la modernité a élargi, je parlais tout à l'heure du dégoût, a élargi la palette des sentiments possibles légitimes pour l'art, pour le jugement esthétique plutôt, bien au-delà de ce qui donnait lieu à un jugement « ceci est beau » ou « ceci est laid », c'est-à-dire bien au-delà de l'alternative du plaisir et du déplaisir. Si bien que tous les sentiments humains sont autorisables pour donner lieu à un jugement esthétique et qu'en définitive, le jugement esthétique exprime ce qu'on aime, même si dans l'amour de l'art, Je prie ici l'auditeur de comprendre qu'on peut mettre des sentiments aussi complexes et aussi contradictoires que dans l'amour humain tout court, c'est-à-dire aussi bien la haine, la jalousie que les bons sentiments. On ne fait pas de l'art seulement avec des bons sentiments. Toujours est-il que si je tombe amoureux d'une œuvre d'art, je vais simplement exprimer ce sentiment par la phrase « ceci est de l'art ». Si j'emploie la phrase « ceci est de l'art » honnêtement pour exprimer ainsi ce sentiment que j'appelle l'amour de l'art, c'est comme si, en mon nom propre, je baptisais la chose en question du nom d'art. Et donc « ceci est de l'art » devient un baptême. C'est comme si je disais « eh bien oui, toi que je regarde, je te baptise art ». À partir de ce moment-là, j'ai pensé que peut-être une théorie pouvait se dégager de cela. Effectivement, on emploie le mot « art » à la manière d'un nom propre lorsque on baptise quelqu'un d'un nom. Le mot « art » n'aurait donc pas de sens, il n'aurait que des référents. De même que le mot « pierre » n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par une analyse conceptuelle du mot « pierre », déterminer si une personne qui s'appelle Pierre est blonde ou brune, grande ou petite, etc. Mais simplement le mot « pierre » sert à désigner tous les gens qui ont été nommés du nom Pierre. De même, le mot « art » sert à désigner toutes les choses que, par un jugement esthétique, moi personnellement, ou vous personnellement, l'individu, a introduit dans sa petite collection privée, mentale.
Ça voudrait dire alors que la définition de l'art ne relève pas, ou n'est pas à chercher du côté de propriété qui serait intrinsèque à l'art, ou d'une signifiance commune aux œuvres d'art.
Exactement. Je pense que si l'on part du constat que tout et n'importe quoi peut être de l'art, c'est peine perdue que de tenter de chercher l'essence de l'art dans des propriétés formelles, matérielles ou conceptuelles de l'objet, ou même de la pragmatique par laquelle on juge l'objet. Le mot « art » est un nom propre.
Mais curieusement, le premier chapitre du livre, qui est ce chapitre dans lequel vous esquissez cette théorie de l'art, est un chapitre dont le titre est à l'imparfait. Le titre du premier chapitre, ce n'est pas « l'art est un nom propre », c'est « l'art était un nom propre ». Pourquoi ?
Dans ce chapitre, j'ai joué au jeu de nombre d'esthéticiens, mais aussi de nombre d'artistes de la modernité. De toutes les périodes de l'histoire de l'art, seule la modernité a été obsédée à ce point-là par la question « qu'est-ce que l'art ?». Et ce n'est pas seulement une question de théoriciens, c'est aussi une question à laquelle les artistes ont tenté de répondre par la pratique. Et précisément, ça nous ramène à la question des conventions et de la spécificité, précisément en éliminant de leurs objets d'art toutes les conventions qu'ils estimaient superflues à la définition de l'art. Si bien qu'on arrive à des définitions de plus en plus minimales, et la tentation était très grande, surtout pour certains esthéticiens anglo-saxons dans la mouvance du logico-positivisme, de tenter de réduire le concept d'art à des critères, c'est-à-dire à des conditions nécessaires et suffisantes. Avec une certaine ironie, quand même, j'ai joué ce jeu, et j'ai joué ce jeu pour alors y répondre par l'idée du sentiment que je viens de vous mentionner et par une théorie qui repose au fond sur la conception du nom propre d'un philosophe contemporain, Saul Kripke. L'art est un nom propre. Maintenant, pourquoi est-ce que le chapitre s'intitule « L'art était un nom propre » ? C'est parce que, tout en jouant ce jeu de tenter de répondre à la question qu'est-ce que l'art, c'est-à-dire quelle essence de l'art, je ne pouvais pas ignorer à quel point cette question était datée et qu'elle était quasi unique dans toute l'histoire. Et donc, cette question devenait automatiquement une question moderne et pas une question absolue, pas une question transhistorique. Et donc, je pense que quand on peut répondre à une question qui est ainsi surdéterminée historiquement, c'est qu'on n'y est déjà plus. C'est qu'on n'est déjà plus dans cette période.
C'est qu'on n'est déjà plus dans la modernité. Est-ce que vous pouvez penser que vous pouvez parler d'un point qui serait hors de la modernité, qui pourrait la surplomber ou en tout cas ou la regarder rétrospectivement ?
La surplomber, non. La regarder rétrospectivement, oui, en tant que historien et théoricien, c'est-à-dire au fond, parce que c'est dans le domaine des sciences humaines vraiment quelqu'un qui est un maître pour moi, je parle de Michel Foucault, en archéologue. J'ai donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire l'archéologie de la modernité, c'est-à-dire de cette époque de l'histoire qui sait plus que n'importe quelle autre poser la question « qu'est-ce que l'art ?» Voilà une première définition. Ou encore, de cette période de l'histoire pour laquelle le jugement esthétique s'est exprimé par la phrase « ceci est l'art, ceci est de l'art plutôt que ceci est beau », voilà une deuxième définition. Ou encore, cette période de l'histoire pour laquelle l'art a été employé à la manière d'un nom propre, et ça serait une troisième définition. Et c'est ainsi que j'estime pouvoir intituler ce chapitre « L'art était un nom propre » dans la mesure où maintenant que nous le savons, ça n'a plus d'importance. Je n'ai évidemment pas répondu à la question « qu'est-ce que l'art ?» Et vous pensez que si je pouvais y répondre de façon normative, je serais artiste et pas théoricien. En art, contrairement à ce qui se passe en science, ou bien il n'y a pas de théorie, ou bien quand il y en a, elles ne peuvent être que rétrospectives. Alors qu'en science, les théories sont prospectives. Elles permettent toujours de prédire le cas suivant. Si c'était possible en art, il n'y aurait pas de création.
Donc, pour l'historien, pour l'archéologue que vous êtes, quand il entend parler de postmoderne, cette tentative, au fond, de changer le nom de la période que nous vivons, il ressent ça comme un symptôme.
Oui, tout à fait. Il se fait que le mot postmoderne est apparu. Là aussi, c'est assez unique dans l'histoire. Je ne pense pas que les gens du Moyen-Âge se soient appelés moyenâgeux. La Renaissance est un tout petit peu différent. C'est une période qui, à cet égard, ressemble à la modernité. Mais, si vous voulez, je vais expliquer ça comme ceci. Il y a 20 ans, quand j'étais étudiant, le mot moderne était très favorable. Et on disait « Shakespeare est moderne », on disait « Bach est moderne », on disait « Piero della Francesca est moderne ». Bref, on l'employait non comme un instrument de périodisation, mais comme un jugement de valeur. Et puis, probablement, pour des raisons de malaise, dont les causes sont encore une fois très très complexes, on a vu apparaître, je le constate, le mot postmoderne dans la critique d'art. Comme si certaines personnes avaient été déçues des illusions de la modernité, des promesses non tenues de la modernité, comme si brusquement le mot moderne avait cessé d'être favorable et devenait péjoratif, et comme si les personnes qui emploient le mot postmoderne, par la magie d'un performatif qui périodise l'histoire, disaient, on n'en veut plus de la modernité, ça ce n'est plus pour nous, nous ne sommes plus modernes. Alors c'est évidemment un symptôme, c'est le symptôme que quelque chose a mal tourné avec la modernité, et c'est cette chose, ces problèmes, parfois même douloureux, qu'il s'agit, je pense, de réinterpréter.
Mais si on quitte cette position de l'archéologue pour prendre cette autre position qui est aussi la vôtre et que vous occupez, qui est la position du critique, à ce moment-là, vous dites que le postmodernisme, que le postmoderne en tout cas, soumet le critique à une espèce d'injonction paradoxale, contradictoire, un double bind. Est-ce que vous pouvez expliciter ce constat?
Oui, ça a l'air difficile, mais c'est très facile. J'ai deux casquettes, une casquette de critique d'art et une casquette d'archéologue. Pour simplifier, l'archéologue observe la société dont il vient de sortir, ou la période de l'histoire dont il a le sentiment qu'il vient de sortir. Et donc, il est un observateur extérieur, et il peut la regarder d'un œil froid. Le critique, c'est ma définition du critique, est un amateur professionnel. C'est-à-dire qu'un critique, c'est quelqu'un qui fait part de ses jugements esthétiques à d'autres, et qui, c'est d'ailleurs sa morale, court le risque d'être jugé par les autres sur ses propres jugements. Ainsi donc, le critique s'inscrit dans une jurisprudence qui est précisément l'étoffe même de l'histoire de l'art. Maintenant, la question du moderne et du postmoderne. Si, pour juger d'une œuvre, par exemple de la transavant-garde italienne, tel critique, que je ne nommerai pas, dit « ça c'est du postmoderne », que fait-il ? Il dit, voilà une œuvre qui rompt avec la modernité, voilà une œuvre qui est bonne parce que elle ne croit plus dans certaines illusions détruites de la modernité, et je la valorise en lui donnant une épithète qui est à la fois un jugement de valeur et un instrument de périodisation. En faisant ça, ce critique coupe l'œuvre en question de son passé. Mais l'idée de couper une œuvre de son passé est précisément une idée très moderne. Je dirais même que c'est la caricature de l'idéologie moderniste par excellence, qui est l'idéologie de la table rase. Les avant-gardes se sont justifiées par le fait qu'elles rompaient avec le passé. Et donc le paradoxe, qui est un double bind, se referme sur le critique. S'il utilise le mot postmoderne comme un instrument de valeur, alors il est moderne. Tandis que l'archéologue...
Il n'a fait au fond qu'ajouter un isme à la chaîne des multiples ismes que la modernité et le modernisme ont connus.
Évidemment, et ça c'est l'ironie de toute l'affaire. Tandis que l'archéologue, lui, dit, mais être postmoderne, c'est simplement prendre cette position dans le temps d'où je puis regarder, sans y croire, c'est-à-dire sans nécessairement adhérer à ces valeurs, une période de l'histoire qui, du fait même que le mot postmoderne est apparu, est révolue, car ces mots-là sont performatifs. L'histoire ne se périodise pas d'elle-même, elle est périodisée par les noms qu'on impose au flux du temps.
Thierry Dedieu, j'ai peut-être une dernière question à vous poser. Je voudrais revenir sur cette question du passage de la peinture à l'art en général, du spécifique au générique. Bon, vous dites que c'est une question qui a une dimension théorique, une dimension conceptuelle, une dimension historique. Mais vous insistez aussi souvent dans vos textes sur la dimension éthique de ce passage. Alors j'aimerais peut-être aussi que vous vous explicitiez là-dessus, cette dimension éthique.
La dimension éthique est la plus importante. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans le champ artistique, on ne peut pas dire que les pionniers de la modernité qui pensaient ouvrir une époque de bonheur et d'appréciation universelle d'un langage nouveau qui serait accessible à tous, etc., je reprends les grandes utopies, aient tenu ces promesses. Et de même, dans le domaine politique, on ne peut pas dire que les diverses révolutions, depuis la Révolution française, en passant par la soviétique, la chinoise et les autres, aient donné lieu aux libérations ou aux émancipations promises. D'où, évidemment, la désillusion. La tentation est grande, et beaucoup de néoconservateurs aujourd'hui succombent à cette tentation, de vouloir refermer la parenthèse de la modernité, qui remonte, je le signale quand même, aux Lumières, d'où évidemment mon attachement à Kant, de refermer cette parenthèse et d'en revenir à des notions prémodernes, et au fond donc prédémocratiques, puisque les illusions et les espoirs de la modernité reposaient tout de même sur des maximes dont, puisque c'est l'année du bicentenaire, allons-y, celle de la Révolution française reste tout de même le modèle, liberté, égalité, fraternité. La maxime liberté, égalité, fraternité a son équivalent dans le domaine artistique, dans des choses que Rimbaud a peut-être été le premier à dire, et Joseph Beuys le dernier, tout le monde est artiste. Alors, c'est faux, évidemment. Tout le monde n'est pas artiste. Et pourtant, c'est vrai. Il faut que tout le monde puisse l'être. Ça, c'est la question de l'éthique. Et donc, il fallait, je pense, renverser la question du n'importe quoi, du laxisme apparent, qui fait partie de la désillusion actuelle de la part de certaines personnes qui ont l'impression qu'en art aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi et s'en tirer. Il fallait la renverser et y voir non plus une permission, mais au contraire un impératif. J'ai essayé de faire cela aussi, d'interpréter « fait n'importe quoi » comme un impératif catégorique, dont le fond revient à dire évidemment « il faut que n'importe qui puisse être artiste », même si ce n'est pas vrai. C'est la question de l'universalité, mais sans postuler quelque chose de semblable, c'est-à-dire un accès universel de n'importe qui à ce que nous nommons art, on ne voit pas très bien comment on pourrait éviter que l'art aujourd'hui se retranche soit dans des spécialisations analogues, mais analogues seulement à la culture scientifique, soit dans des castes qui sont socialement déterminées par le pouvoir. Et ça...
Et par le marché.
Par le pouvoir et par le marché. Ou par le pouvoir du marché. Et comme je ne prétends pas laisser tomber les bras devant cela, c'était ma réponse à ce problème.
Thierry Deduve nous parlait de ses deux livres, Au nom de l'art et Résonance du Ready-Made. Au nom de l'art est publié par les éditions de Minuit. Résonance du Ready-Made est publié par les éditions Jacqueline Chambon. Et ce sont deux livres complémentaires. Je rappelle que Thierry de Duve est aujourd'hui professeur d'histoire de l'art moderne et contemporain et professeur d'esthétique à l'Université d'Ottawa.